Vous écoutez
RMC. RMC, l'After Live.
Karine Gueli. 21h02, vous êtes en direct sur RMC. On est ensemble avec Lionel Charbonnier. On suit le tennis. On vous rappelle le tremblement de terre. Novak Djokovic a été éliminé en 5-7 par le jeune Brésilien Fonseca. Dans quelques minutes, Zverev sera sur le court et on va tout de suite retourner à l'Allianz Riviera. C'est le match à ne pas perdre, le match de la peur. Nice-Saint-Etienne, pas de but, messieurs. Et ce soir, on saura enfin qui sera la 18e équipe qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine.
17 minutes de jeu à Nice, 0-0 toujours. Et Maxime, on a l'impression qu'il y a une équipe de Ligue 1 et une équipe de Ligue 2 sur la pelouse, mais que les rôles sont inversés.
Ouais, les Niçois clairement n'ont pas rentré dans leur match. Et attention encore, là il est passé David Tajvili qui peut accélérer côté gauche. Il va se présenter face à Dante à l'entrée de la surface de réparation. Ça s'est refermé. Ah, le bon retour avec Dante. Il a peut-être un peu trop tardé David Tajvili avant de servir, pourquoi pas, Stassin. Mais encore une fois, derrière, les Niçois qui ne gardent pas la possession du ballon. Ça agace évidemment un Claude Puel désarmé dans sa zone technique. Mais Lionel, à 18 minutes de jeu, certes on n'a pas encore eu de tir cadré comme lors du match aller, mais les Stéphanois ont cru ouvrir le score et ils pourraient être récompensés. Ce serait plutôt logique, hein,
ils sont rentables. Exactement, ils sont nettement mieux. Je m'attendais plutôt à une pression niçoise, enfin un match inversé.
On le sort de Cardona.
Attention à droite.
Oh, la reprise juste devant le but de Yevan Diouf. Il s'était bien jeté, Lucas Tassin, encore une fois en position de hors-jeu, mais ça continue de se rapprocher, hein, sur la cage du portier sénégalais de l'OGC Nice, avec ce bon débordement encore une fois d'Irvine Cardona, le centre du pied droit. Oh, Tassin qui se jette
comme ça.
Et ce ballon qui passe au-dessus de la barre transversale. Ils ont, Lionel, trop de liberté, les attaquants stéphanois.
Bien évidemment, alors que ce soit sur les côtés, ils sont tout le temps tout seuls. Ils peuvent centrer, que ce soit les arrières latéraux qui prennent le dos, ou les joueurs de couloir, que ce soit dans le milieu. Alors par contre, petit bémol pour les attaques placées, avec lorsque c'est un attaquant stéphanois qui a la balle, il y a tout le temps Stassin qui fait l'appel dans la profondeur, et puis tout le temps le milieu derrière qui se jette. Alors je sais pas si c'est un coup c'est Kanté, un coup c'est un autre Boakye, joueur.
Il y a Boakye aussi.
Boakye, ouais, ils font tout le temps les mêmes appels. Donc ça resserre la défense et ça empêche de joindre Stassin. Mais sinon, oui, dans l'utilisation des couloirs, que ce soit à gauche ou à droite, ils font ce qu'ils veulent les Stéphanois, et c'est plutôt bien joué.
Dans les intentions, ils sont bien au-dessus. Nice qui n'a toujours pas frappé, hein, depuis le début de la rencontre. Peut-être l'opportunité. Exactement, Maxime, avec
peut-être
sur la gauche.
Une longue touche. Ah, non, il va jouer court rapidement avec Loucher, Melvin Barr. Alors que depuis plusieurs semaines, les Niçois essayent de créer le danger sur touche en mettant le ballon dans la boîte. Mais là, ils ont voulu essayer de faire du jeu. Et encore une fois, ça n'a pas marché. Deuxième opportunité à venir après le dégagement en touche là de Denis Sapia. Est-ce que Melvin Barr, cette fois-ci, va vouloir mettre le ballon dans la surface?
T'imagines ce que tu dis? Quand t'analyses, et t'as parfaitement raison, hein, t'essaies de mettre le danger sur les touches. Ça veut dire que dans le jeu, t'es vraiment pas bien.
Faute de grive,
on mange des merdes.
Donc voilà, le centre à venir quand même de Melvin Barr au point de pénalty. Il y a chaud, le ballon qui traîne, le poteau sur la reprise d'Eli Wahi. Le drapeau se lève pas, ce sera un corner à venir. Mais les Niçois qui ont fait trembler le poteau de Gauthier Larsonneur sur un deuxième ballon qui traînait dans la surface de réparation dans les 6 mètres. D'abord, c'est Mohamed Ali Chaud qui est à la réception du centre de Melvin Barr au duel avec Kevin Pedro. En tout cas, le jeu s'est poursuivi.
S'il y a corner qui marque là-dessus.
Mais on va voir si il y aura une sanction corner à venir pour Jonathan Klose.
De la droite vers la gauche, en regardant la cage de Gauthier Larsonneur, le bras gauche levé pour l'ex-Lorsois Jonathan Klose. C'est frappé au point de pénalty, ressorti par les points de Gauthier Larsonneur. La reprise n'importe comment de Tom Loucher à 30 mètres qui passe loin au-dessus de la cage du portier stéphanois. On lance vite pour
Larsonneur. Il s'est dit, il n'y a pas de spectateur, j'en profite, je mets une mine dans la tribune.
Ouais, ça finit en chandelle.
En tout cas, c'est bien couvert derrière par Melvin Barr. Il y avait un 2 contre 1 à négocier, il était seul Melvin Barr sur le dégagement très rapide de Gauthier Larsonneur. Le ballon aurait été juste à peine posé dans ses 6 mètres. Il a voulu alerter tout de suite le dos de la défense niçoise.
Ouais, excuse-moi, juste un petit point règlement. C'est-à-dire que là, on a vu Eli Wahi qui était franchement hors jeu. Derrière, on ne regarde pas parce que ça ne fait pas but. On ne regarde donc qu'il y avait une erreur d'arbitrage parce que les arbitres ne signalent même plus ce genre de hors jeu. Mais derrière, il y a un corner. Sur ce corner-là, il y a un but. C'est un scandale. Franchement, c'est pas normal.
Bien sûr.
Non, c'est non, pas normal.
Je suis pas certain qu'il puisse revenir dessus.
Ça mais non, c'est trop tard. C'est trop tard. Il revient pas, mais comme il signale plus ce genre de hors-jeu, eh ben, derrière, t'as une action quand même. Là, ça aurait été un vol pour les, alors là, en l'occurrence, pour les Stéphanois. Mais, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Faut changer ce point de règlement.
J'ai l'impression que Rudy Buquet, en plus, avait vu qu'il avait bien
fait. Liwayi qui balançait Tom Louchet dans la surface. Le centre en retrait. Louchet, le ballon qui traîne. Oh, la frappe contrée derrière. C'était Jonathan Klotz au second poteau. Et c'est Kevin Perrault qui s'est jeté pour contrer la tentative. Les Niçois sont mieux là depuis quelques minutes. Avec notamment un très bon Eliwayi entre les lignes sur ce coup.
Ouais. Exactement. C'est la différence qu'apporte Eliwayi par rapport au match aller. Là, tu le vois, il est de tous les coups. Alors, peut-être aussi parce que malgré tout, on pense, on est Niçois. Pour l'instant, on s'est jamais rapproché depuis trois matchs que plus près que le poteau, quoi. Et quand on est dans la cage, ça fait, sur trois matchs, ça fait quatre poteaux. Trois poteaux, une barre. Les pauvres, tu dois commencer à camberger. Tu te dis, mais c'est pas possible cette année, qu'est-ce qui se passe?
0-0 entre Nice et Saint-Etienne. Il y a également du foot féminin. Ce soir, on va tout de suite prendre la direction de Lyon. Retrouver Edouard G. Salut Doudou, c'est la finale de l'Arkema Première Ligue. Lyon, les Lyonnaises qui doivent se remettre de la terrible désillusion et de la défaite 4-0 face à Barcelone en finale de Ligue des Champions, affrontent le Paris FC.
Exactement, dans ce match pour le titre, toujours 0-0 hein, au bout de 6 minutes de jeu, mais on voit des Lyonnaises un petit peu empruntées et Clara Matteo là qui peut-être partir, mais non, finalement Tabitha Chawinga peut revenir récupérer le ballon. C'est un petit peu difficile à l'entame, justement tu l'as rappelé Karine, parce que les Lyonnaises ont encore les joues toutes rouges de la défaite la semaine dernière c'était à Oslo.
Les joues t'es gentille.
Pardon ?
Oui, les joues, mais t'es gentil parce qu'elles ont pris une fessée. Hein.
4-0, donc cette finale perdue, elles qui voulaient une 9e Ligue des Champions, ben ça s'arrête à 8, mais elles veulent une 19e couronne de championne de France et ça passe par une victoire ce soir. On espère qu'on aura des buts parce que ça va être très très serré, même si en championnat il y a eu 12 points d'écart. Au final, vous savez que maintenant il y a des play-offs, demi-finale et finale. Et bien, les deux matchs, il y a eu 0-0 à Paris et 1-0 seulement pour une victoire de l'OL au match aller dans le championnat. Donc ça nous dessine peut-être un match très très indécis. 7 minutes de jeu, 0-0.
Et Edouard, on a appris en fin d'après-midi le départ, le décès de Brian Bergugno, formé à l'Olympique Lyonnais. Il avait été sacré champion de France à 3 reprises. On savait qu'il se battait contre un cancer. Il est décédé aujourd'hui et on sait aussi également que tu étais très proche de lui. Beaucoup d'hommages suite au départ du joueur qui était devenu entraîneur d'ailleurs. Il était dans le staff de Didier Digard avec Le Havre cette saison.
Oui, je peux vous avouer que c'est difficile de travailler ce soir parce que je l'ai vu grandir, j'ai vu faire son premier but en janvier 2005 avec une passe décisive d'un certain Karim Benzema pour les premiers pas de ce joueur qu'on allait connaître après à Gerland. C'était un gars très très charmant, toujours présent et qui avait dû lutter déjà pour revenir après un AVC. Ensuite il a eu un cancer avec une rémission, il s'est battu avec un courage incroyable et aujourd'hui voilà une crise cardiaque qui l'a cloué alors qu'il allait faire un match des légendes à Toulouse. Voilà pour le décès. Alors bien évidemment, tous les joueurs qui l'ont connu ont fait des posts aujourd'hui sur les réseaux sociaux, même le président Aulas, toute l'institution, tous les supporters, Sidney Gou, vous, Jérémy Berthaud et tous les autres également. Et ce match-là ce soir est quand même empli de cette tristesse parce que c'était quelqu'un de Lyon en plus, formé à l'OL et qui a disparu bien trop tôt à 43 ans aujourd'hui.
Il avait effectivement seulement 43 ans. On présente évidemment toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. On retourne à Nice, on le rappelle, c'est le match pour rester en Ligue 1 ou pour remonter en Ligue 1 entre Nice et Saint-Etienne. Maxime Tilliat et Clément Brossard, les Niçois qui ont retrouvé des couleurs depuis quelques minutes.
Ouais, la 25e, 0-0, mais Clément, là, la première frappe cadrée de cette double confrontation, elle est pour les Verts.
Exactement, pour Boakier notamment, le Ghanéen milieu de terrain à l'entrée de la surface de réparation. En première intention, une volée qui a été stoppée en deux temps par Yevan Diouf. On a vu une première frappe cadrée au bout de 25 minutes, mais c'est malgré tout bien mieux que mardi dans le rythme, dans l'intensité. On a vu un but hors jeu aussi, on le rappelle, d'Irvin Cardona en début de rencontre, un poteau d'Eliwayi. Donc voilà, il y a du jeu alors qu'on va se diriger vers une petite pause fraîcheur après 26 minutes ici à Nice. Il fait environ 26 degrés, 0-0 entre les Aiglons et les Verts.
C'est pas nécessaire.
Oui, parce qu'à Nice il fait pas très chaud aujourd'hui, c'est pas la canicule qui touche toute la France.
Ah non, pas du
non,
tout.
Non, non, oui. C'est moins étouffant qu'à Paris, clairement.
Ah oui, oui. Bon, bah écoute, une petite pause.
C'est pour s'habituer à la Coupe du Monde. On est en mode Coupe du Monde déjà. Voilà.
Ah oui, bah là, c'est pas un match Coupe du Monde, hein, vu ce qu'on voit. J'espère que ça sera mieux, le mondial, on le rappelle.
Oh, il y en aura des pires.
Oui, bon, bien sûr. RMC, radio officielle de la Coupe du Monde, ça sera à suivre évidemment chez nous du 11 juin au 19 juillet. Dans quelques instants,
l'ouverture
continue.
Du score pour les Lyonnaises avec ce tir. C'est Amelchi Dumornay, je crois, en tout cas, qui se retourne et qui marque ce but magnifique. Et donc, l'ouverture du score dans cette partie pour les championnes de France en titre sur cette balle de l'INSEIP à l'entrée de la surface de réparation. Le contrôle, elle s'oriente et au final, voilà pour l'ouverture du score lyonnais, donc 1-0 donc pour l'OL. Et nous en sommes à la 8e minute, c'est Johannes pardon qui a donné cette passe, et donc 1-0 pour ce but lyonnais avec donc Tabitha Shawingap qui marque donc 1-0 à la 7e.
Lyon qui est devant dans quelques instants, évidemment. On continue, on sera à Roland-Garros, on sera à Nice pour le barrage entre les Niçois et les Stéphanois, et puis avec toi également pour cette finale d'Arkema Premier League entre l'OL et le Paris FC. Le sport, ça se passe sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 21h14, vous êtes sur RMC. On est ensemble jusqu'à minuit. Le live est juste après l'After Foot avec Daniel Riolo et Maxime Chano. Là, on vit ce match entre Nice et Saint-Etienne. Lionel Charbonnier est à mes côtés. Retour à l'Alliance Riviera. Maxime Tilliette et Clément Brossard. Pour l'instant, pas de but, mais c'est déjà plus animé que le match de mardi soir.
Exactement, un quart d'heure à jouer dans cette première période, et après une entame très poussive des Niçois, ce sont bien les Aiglons là qui ont mis davantage le pied sur le ballon, davantage de possession, mais toujours du déchet technique hein, sur certaines transmissions qui pourtant semblent faciles, Lionel.
Ouais, mais là tu vois que ça joue dans les têtes hein, franchement le ballon leur brûle les pieds, ils n'arrivent pas à maîtriser, alors que normalement en pleine confiance ce sont des transmissions de balles. Là c'était une balle en profondeur mais qui aurait dû être jouée dans les pieds. Les choix sont pas bons, alors le choix tactique n'est pas bon, mais le choix technique n'est pas bon non plus, la réalisation n'est pas bonne. Là c'est vraiment dans la tête, parce que un joueur de DH il te le fait ce geste technique, mais là quand t'es comme ça, que t'es pas bien, tu perds tout quoi.
Et les Stéphanois qui usent un petit peu trop du gelon aussi pour aller chercher Lucas Tassin depuis 5-6 minutes. On ne retrouve pas les verts dans les combinaisons offensives sur les ailes comme ils ont pu le faire, notamment lors du premier quart d'heure, en mettant en difficulté
bien,
la défense niçoise.
C'était bien pourtant le premier quart d'heure.
J'ai pas compris non plus pourquoi ils ont changé de stratégie, sachant que on n'a pas non plus renforcé les côtés pour les Niçois. On a voulu varier et pour le moment ça marche pas vraiment, et Philippe Montagnier qui demande à ses joueurs d'écarter un petit peu plus, de jouer dans la largeur comme ils l'ont fait en début de rencontre. Deuxième faute de suite contre les Niçois, et ça va offrir un coup franc dans l'axe au vert.
Ça se rapproche petit à petit avec un coup franc désormais à 35 mètres plein axe face au but de Yevan Diouf pour les Verts, et on va voir, il y a peut-être l'opportunité d'amener du danger dans cette surface de réparation. C'est David Ajvili qui a pris ce ballon, lui qui a marqué 15 buts, délivré 5 passes décisives cette saison. La chance peut-être des Niçois, c'est de tomber face à un Saint-Etienne qui tourne à cette saison à moins de 2 points par match en championnat, qui est passé difficilement par ses barrages et qui balbutie aussi quelque peu son football. On va voir si sur cette situation ils vont mieux le réciter. Le coup franc à venir pour David Ajvili, c'est parti, le ballon vers le second poteau. Il y a Bernauer qui se fait lober et c'est Djibril Koulibaly qui va éloigner le danger de la tête.
Il y aura une touche côté droit pour les Stéphanois, avec notamment pour récupérer ce ballon Abdoulaye Kanté qui va la laisser logiquement au latéral droit Appia, avec juste devant lui Irvine Cardona. On a choisi la solution longue avec Boakye qui a tenté de remettre vers Cardona qui a été taclé par Melvin Barr. Nouvelle touche à venir pour les Verts. Est-ce qu'on va tenter de la faire longue ou pas? Et c'est Appia qui a ce ballon dans les mains. On est à une bonne douzaine de mètres du poteau de corner.
Et c'est Gadek Bekou qui vient lui proposer
et
quasiment au poteau de corner.
Edouard Zetoua Lyonnaise.
2-0, c'est un doublé pour Tabitha Shawingal, et cette fois-ci autant c'était Lilian Johannes qui lui avait fait une passe décisive, là c'est Lindsay Hip, anciennement Lindsay Horan, championne du monde en 2019 avec les Américaines et championne olympique en titre, qui lui fait la passe décisive. Elle va couper la trajectoire du ballon et ça fait donc 2-0 en moins de 20 minutes. Moi qui vous annonçais un match assez serré, il va falloir que je change de boulot à ce niveau-là. Je suis là plus pour commenter que pour prévoir les scénarios des matchs.
Tu croyais vraiment au match serré entre les Parisiennes et les Lyonnaises?
Oui, parce qu'en fait, on imaginait qu'elles étaient mal remises de ce qui s'est passé la semaine dernière. On imaginait, je vous parlais des matchs allés 0-0 à Paris et du match retour ici qui avait été difficile avec une victoire 1-0. On se disait le dernier match de l'année, le Paris FC n'a pas grand-chose à perdre. Eh bien pour l'instant, ils perdent tout. Elles perdent toutes les Parisiennes puisqu'elles sont menées 2-0. Donc au bout de 20 minutes, le doublé, 17 minutes même, le doublé de Tabitha Shawinga.
Tout va bien donc pour les Lyonnaises qui finalement, si elles étaient championnes de France, ça serait un train qui arrive à l'heure, hein, Edouard.
Oui, ça ferait la 19e fois sur les 20 dernières années. Ça va ?
Voilà, il y a une constance.
Il y a une constance à ce niveau-là.
On retourne à Nice. Nice face à Saint-Etienne. Toujours pas de but et on a dépassé la demi-heure de jeu. Maxime Tilliat et Clément Brossard.
Et le ballon toujours dans les pieds des Verts, côté droit avec Denis Sapia. Les passements de jambes devant Melvin Barre. On va trouver en retrait Boisquier qui va vouloir centrer. C'est contré par Morgan Sanson, mais les Stéphanois toujours à l'attaque.
Ça va revenir avec Pierre sur la droite. Le centre du droit pour Sassin, encore une fois, qui a coupé au premier poteau juste devant Vanté et qui n'a pas trouvé le cadre. Ça fait deux fois. Hein. Ça fait deux fois déjà que les Stéphanois utilisent cette combinaison. Centre d'Apia et Sassin pour venir couper ce ballon. À chaque fois, c'est pas cadré, mais en effet, t'as raison de le souligner, Maxime. Il est fou de rage, Dante est derrière.
Ouais, qui s'en est pris directement à Melvin Barre qui n'est pas allé serrer Denis Sapia. Il avait tout son temps pour armer son centre et il a pu délivrer au premier poteau un très bon centre vers Stassin, un peu trop court peut-être pour redresser la trajectoire de ce ballon.
Il a raison, 0-0 Dante.
Toujours 35 minutes de jeu.
Il a raison, oui, Dante, parce que Melvin Barre, il doit pas se comporter comme ça. À chaque fois qu'il est attaqué sur son côté, honnêtement, il est à 4 mètres de son attaquant personnel. Donc c'est pas normal. Le gars, il a le temps de contrôler, lever la tête et puis regarder, attendre l'appel de Stassin. C'est franchement, mais il devrait insister là-dessus, les Stéphanois, hein, sur le côté droit, leur côté droit.
À l'image des Niçois, mais Melvin Barre fait une saison catastrophique. Oui, il a pu réaliser parfois ce qui lui a valu notamment le brassard de capitaine de très bonnes sorties, mais il est à l'image de son équipe alors que Sanson a tenté d'adresser un ballon à Eli Wade à la surface de réparation. Il essaye de se battre, l'attaquant ivoirien, et lui, il y avait une position de hors-jeu, notamment Eli Wade.
Oui.
Ah bah c'est celui qui apporte le flux de l'offensive niçoise depuis le début. Hein. C'est lui qui fait les différences quasiment à chaque fois.
Et il joue
on a quelques
stress.
Joueurs qui sont un petit peu empruntés physiquement. Ça se voit notamment sur les visages. Je pense à Tom Louchet aussi.
Le milieu.
Tajili qui commence à tirer la langue aussi de l'autre côté. Mais le milieu niçois commence à peiner un petit peu physiquement.
Exactement.
Après seulement 35 minutes de jeu.
Ah, Cardona, il ne s'est pas compris là avec Abdoulaye Kanté. L'appel était dans un sens et le ballon est parti dans l'autre. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne situation encore à venir. Pourquoi pas pour les Verts. Mais ce sont les Niçois qui repartent à l'attaque. Avec Dante qui porte le ballon, qui va avancer une vingtaine de mètres. Le ballon dans les pieds, il cherche la solution. Mais il n'a pas vraiment de solution parfaite autour de lui. Alors on temporise et on s'appuie sur Antoine Mendy.
Qui
va retrouver son capitaine. Djibril Koulibaly qui fait plutôt un bon match au milieu de terrain. Le joueur formé à l'OGC Nice, joueur de 17 ans. C'est seulement sa quatrième titularisation cette saison. Il l'avait été au tout début, au mois d'août, sur la pelouse du Benfica Lisbonne en barrage de Ligue des Champions. Il avait été sur la pelouse également de Ludogorets en finale de la Coupe de France il y a de ça une semaine. Et puis donc ce soir, pour sa première en fait à l'Allianz Riviera, Djibril Koulibaly qui touche quasiment tous les ballons. La plaque tournante de cette équipe niçoise, c'est bizarre. Hein. C'est un joueur de 17 ans qu'on a au final très peu vu cette saison, par qui il passe tous les ballons pour ce match le plus important, le 52e match de la saison de l'OGC Nice. C'est 12 de plus que les Verts. Attention tout de même, le pressing des Niçois, même si la Melvin Barre ne va pas réussir à garder la possession. Les Verts repartent à l'attaque.
Avec un bon travail notamment de Gadek Bekou pour se mettre dans le sens de la marche, mais qui va perdre son duel finalement avec Koulibaly qui récupère pour Jonathan Klos sur le côté droit. La frappe de Jonathan Klos repoussée par Maxime Bernauer qui va être contrée. Touche ou corner, ce sera une touche pour l'OGC Nice, très proche du poteau de corner avec, tu le soulignais, Koulibaly qui est très très intéressant dans les duels.
Pour moi, c'est
aussi
le meilleur niçois.
Récupérer le ballon.
Pour moi, c'est depuis le début du match.
Koulibaly, alors Lionel.
Avec les
un choix.
Dans le milieu, dans le Non, je pense que dans la réception, dans son activité, je pense que Koulibaly est un petit peu, c'est le meilleur niçois. Maintenant, Ouahi, il est très embêtant, il a mis le poteau, c'est lui qui crée les trucs. Mais si Ouahi marque, ça sera Ouahi, bien évidemment.
Corner à venir, 7 minutes à jouer dans cette première période, toujours 0-0 dans ce barrage retour entre Nice et Saint-Etienne. C'est parti pour Jonathan Clauss.
Oh, qu'il est beau!
Au point de pénalty, la tête de Dante! C'est sorti par l'Arseneur et dégagé en catastrophe derrière. Énorme occasion pour les Niçois. 7 minutes à jouer dans cette première période.
Oh, qu'il est beau! Incroyable troisième but lyonnais, magnifique de Melchi Dumornay là, qui nous a gratifié d'un ballon à l'entrée de la surface de réparation. Un pied qui ne tremble pas et le ballon en pleine lucarne, un brossé extraordinaire. Ce passement de jambe de l'Haïtienne à l'entrée de la surface de réparation, elle met la puissance, la précision et le lift qui va bien.
À la
et au final, exactement, j'allais le dire, Kvaratskhelia, le Parisien. Et bien voilà, c'est magnifique ce but de Melchi Dumornay. 1, 2, 3, 0 à la 25e. A priori, le 19e titre, les Lyonnaises ont déjà tous les crampons
dessus. Ça fait beaucoup.
Incroyable en tout cas, magnifique réalisation. Quel but, 3-0 pour les Lyonnaises, tout va bien. Post-fraîcheur également à Lyon, on retourne à Nice. Entre Nice et Saint-Etienne, Dante, si Dante avait marqué le capitaine, son dernier match, l'histoire aurait été si magique.
On en parlait en haut, tout à l'heure. Hein.
Vous avez hésité les garçons à parier sur un but de Dante.
Sur coup de pied arrêté, ça fait quelques matchs que le malheureux tourne autour et à chaque fois il y a soit le gardien, soit une intervention, soit le ballon qui passe tout proche du poteau. Et là il était bien présent au second poteau pour claquer ce ballon de la tête. C'est sorti
par l'Arseneur.
Il y avait Cardona sur sa ligne derrière.
L'arrêt qui a suivi.
Ah oui, parce que juste derrière Nice avec Antoine Mendy, c'est encore procuré une occasion. L'Arseneur s'est saisi du ballon en deux temps, mais il s'est fait peur. On n'était pas loin de l'Arconada.
Allez, les Stéphanois, Lionel, en position offensive. Ça fait un bout de temps qu'on les a pas retrouvés comme ça sur le côté avec Zurico Davitashvili qui essaye de se défaire du marquage de Jonathan Clauss qui va rejouer derrière lui avec notamment Abdoulaye Kanté désormais pour passer ce jeu sur la droite. Voilà, c'est fait dans la largeur avec Appia pour Boisquier et on a perdu un petit peu le rythme qui a animé ce début d'offensive avec Kanté qui est obligé de revenir derrière avec Maxime Bernauer désormais au niveau du rond central. On a reculé pour les Stéphanois jusqu'à Le Cardinal pour transmettre à nouveau vers Bernauer et élargir vers la droite.
C'est bizarre, hein, les Verts on les sent déjà quasiment empruntés, diminués physiquement dès la 41e. Déjà mardi à l'heure de jeu quasiment Irvine Cardona avait des crampes alors que ce sont eux qui ont eu davantage de temps de récupération par rapport aux Niçois qui ont disputé la finale de la Coupe de France. Encore, bon, j'allais dire mésentente, mais là c'est erreur technique surtout avec cette passe qui va directement derrière les buts. Ballon rendu aux Niçois et notamment à Yevan Diouf qui peut permettre aussi de repartir vers l'avant. 4 minutes à jouer dans cette première période.
Techniquement, on est en train de retomber et au niveau du rythme aussi dans ce qu'on a vu au match aller. Hein.
Ouais, exactement, sur le match de mardi.
L'ambiance en moins.
Faute des Niçois parce que quand même je veux bien qu'ils soient rôti cuit tout ça, mais quand t'es une Ligue 1 normalement tu dois prendre le rythme à ton jeu. La grosse différence entre la Ligue 1 et la Ligue 2 justement c'est le rythme et la technicité que peuvent avoir les joueurs, la technique qu'ils peuvent avoir à rythme élevé. Mais si Nice n'augmente pas le rythme, c'est à eux d'augmenter le rythme, et s'ils ne l'augmentent pas ils vont passer à la trappe hein, parce que là ils se mettent dans un franchement dans un rythme de Ligue 2 qui convient tout à fait aux Stéphanois.
On sent aussi que les Niçois n'ont pas envie de trop se découvrir, de se faire peur sur les sorties de balles notamment. On accumule les touches de balles avec Dante, avec Opong, avec Antoine Mendy. Voilà, on prend aucun risque et c'est vrai que parfois on a tendance à avoir une équipe qui s'endort un petit peu, même si c'est parfaitement joué avec Clauss sur le côté droit. La centre de Clauss pour Eliwai, il est dos au but. Et il a du mal à se retourner, il va rejouer en retrait, notamment avec Mohamed Ali Chou.
Ouais, c'est chaud au départ, hein, qui crée le décalage. Là, il va renverser le jeu totalement vers Melvin Barra. Il a hésité à centrer en une touche. Il va centrer finalement de l'extérieur, mais un ballon qui tombe et qui arrive tout mort dans la surface de réparation, facilement négocié par la défense des Verts. Peut-être un contre à venir. Est-ce que non? Il va temporiser avec Cardona, même si Gadek Bekou, au cœur du jeu, aura le temps pour se retourner et écarter côté gauche.
Allez, il y a peut-être un peu d'espace devant les Stéphanois, même si les Niçois se sont bien replacés. Maxime Bernauer qui tente une diagonale, elle est parfaite pour aller chercher Erwin Cardona. Le contrôle est bon aussi, il va lever la tête l'ancien Brestois, mais tarde à la donner.
Ouais, il y avait du monde. Il y avait Stassin et Dante seul dans la surface.
La combinaison elle est bonne avec Boakye sur la droite qui a été retrouvé. Il va provoquer, mais peut-être la donner à Pian, le centre en première intention, ça va revenir à l'entrée de la surface de réparation. La frappe de Kanté, elle est complètement manquée, elle file dans les tribunes, derrière la cage de Yevan Diouf. On est à 2 minutes de la pause, toujours 0-0.
Pourtant, il s'est appliqué. Hein. Il a bien pris son temps pour s'ajuster au niveau des appuis. 3, 4, 5 pas. Le temps de laisser le ballon venir, s'ajuster sur son pied droit. Mais par contre, derrière, ça s'envole.
Pas Roberto Carlos qui veut.
Sud. Ah oui, ça.
Ne dis pas qu'il s'est appliqué, Maxime, parce que c'est encore plus douloureux.
J'ai insisté dessus. Mais c'est vrai qu'il a pris le temps. Il a eu 4-5 secondes pour décaler ses appuis, se mettre sur son pied droit.
Il aurait même pu contrôler. Parce qu'il n'y avait personne qui montait sur lui.
Mais là, attention, le ballon dans le dos vers Jonathan Clauss. Bon effort, bon travail défensif de David Tajvili pour ralentir la progression du latéral, du piston niçois. Mais le jeu va être arrêté.
Si les ramasseurs de balles pouvaient éviter de mettre des ballons sur la pelouse pour arrêter le jeu, déjà que le rythme n'est pas fou.
C'est la frappe de Kanté qui vient de revenir dans le stade, là, sur la pelouse, après avoir rebondi dans toutes les travées de l'Allianz Riviera. Toujours 0-0. On va rentrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période et touche à venir pour les Niçois dans le camp des Stéphanois.
Sous les yeux d'un Claude Puel qui converse avec son staff et qui essaye certainement de trouver des solutions et les mots à donner à ses joueurs. Il fait un peu de peine, c'est vrai, Claude Puel, au vestiaire dans quelques minutes. Jonathan Clauss pour la touche sur le côté droit pour aller chercher Mohamed Ali Chaud. Ça va revenir pour les Niçois. Il y a le gros pressing de la défense stéphanoise, pardon, notamment Antoine Mendy qui est retrouvé derrière lui, qui va rejouer avec Mohamed Ali Chaud, qui, me semble-t-il, s'est un peu blessé.
Ouais, il va temporiser, il va se tester un petit peu là le long de la ligne de touche. Ça a l'air d'aller, mais on va voir, on va surveiller ça quand même pendant que le jeu se poursuit côté gauche avec Opong, avec Koulibaly qui lui remet. Opong de nouveau sous la pression de Boakye. On va repasser par Dante, le ballon va revenir sans doute jusqu'à Mohamed Ali Chaud. Est-ce qu'il va proposer quelque chose? Non, il est statique pour le moment, et les Niçois qui font circuler. On n'a pas encore eu le temps additionnel, ça ne saurait tarder. Le ballon côté gauche désormais avec Tom Louchet. L'intervention de Julien Le Cardinal, c'était acrobatique, c'est bien fait.
3 minutes
de temps additionnel, c'est bien moins que mardi, avec forcément la blessure d'Hicham Boulaoui qui a dû quitter sa place dès la deuxième minute après pas mal d'arrêts de jeu. Et là encore une fois du déchet technique côté niçois. Le ballon rendu au Stéphanois avec une touche à venir au niveau de la surface de réparation des Verts.
Et on sent un peu de nervosité hein, dans le camp niçois. Morgan Sanson qui a adressé quelques mots à Melvin Barr là, qui venait de perdre le ballon. On sent que c'est un match important, ô combien important pour la survie de l'OGC Nice. On le disait, ils n'ont plus connu la descente depuis 2002. La récupération stéphanoise avec David Tajvili qui a du monde devant lui, notamment Kanté qui va rejouer avec Zuriko David Tajvili. Mais la défense niçoise a tendance à bien se replier, même si on va chercher la profondeur, et Dante va couper la trajectoire de ce ballon à destination de Stassin.
Pour l'instant, il fait son match. Dante, là, il a bien couvert sur l'ouverture vers Lucas Stassin. La bonne lecture, le bon repli. Et là, c'est bien fait, les Niçois. Pour lancer Eli Wahi, lancé par Jonathan Clauss. Accélération de Wahi, rentre dans la surface. Le crochet derrière le pied d'appui. La frappe contrée par Bernauer. Le bon retour. Il était accompagné par le Cardinal et a permis, eh bien, du coup, à l'Arseneur d'observer cette frappe sans avoir à intervenir. Toujours 0-0, mais les Niçois ont la possession de balle.
Allez, ça va se poursuivre vers la cage de l'Arseneur et finalement récupéré par les Verts avec Denis Sapia. Et il est arrivé, il s'est sacrifié.
Ah, genou,
et
cheville.
Il s'est fait mal, ouais, genou, cheville, Melvin Barr. Il reste au sol, il est venu au contact.
Le genou, je crois. Non.
Alors que Denis Sapia a essayé de jouer en profondeur.
Ah, il hurle. Le stade est en vide. Oh, la semelle sur la cheville, elle est pas belle. Denis Sapia, attention.
Ah, c'est pas beau.
Alors qu'Ali Abdi n'est pas présent évidemment sur la feuille de match, l'autre latéral gauche niçois. Oh, ouais. Elle est pas belle l'image là pour la cheville de Melvin Barr.
C'est rouge, ça.
Qui va sans doute devoir céder sa place. Alors, est-ce que ça vaut rouge ou pas?
Normalement, c'est rouge. Hein. C'est pas maîtrisé. Hein. C'est pas maîtrisé. Ah, c'est au-dessus de la cheville.
Je commence à être d'accord avec toi, Lionel.
Honnêtement,
c'est au-dessus de la cheville. Hein.
Ah, c'est au-dessus de la cheville. C'est un geste qui n'est pas maîtrisé. C'est rouge.
Et Monsieur Buquet qui. Pour l'instant, fait quelques pas pour s'éloigner de tous ces joueurs qui commencent à venir vers lui en réclamant justement une exclusion stéphanoise. On va prendre le temps, on va certainement regarder la vidéo. Si Rudy Buquet évidemment est appelé par le camion, notamment par Nicolas Rainville qui aujourd'hui à l'arbitrage vidéo. On en profite aussi pour se désaltérer, mais en
c'est
effet,
pas,
on a vu
c'est pas un geste volontaire,
pas mal de fois, hein, des situations
mais c'est maladroit,
ça,
mais c'est, maladroit c'est vraiment pas maîtrisé.
Ouais,
il a pas voulu, il est pas allé pour lui faire mal, mais il a pas du tout maîtrisé son geste, stéphanois. Donc pour moi, c'est rouge.
Pour l'instant, en tout cas, Rudy Buquet ne nous a pas fait signe d'une communication avec l'oreillette.
Ah non, mais apparemment, il y a rien.
Bah, ce serait quand même très surprenant, hein, que le jeu reprenne sans rien. Melvin Barr qui se lève, il boite. Il est en train de boiter, il est en train de marcher. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas fait appel là au soigneur. Ou alors on est optimiste. Alors que pour l'instant, on soigne aussi Mohamed Ali Chou dans le rond central. Il y a de la casse, hein, sur cette fin de première période. Il va faire appel aux deux capitaines, Rudy Buquet, Dante et Gauthier Larsonneur. Mais on n'a pas eu de signification qu'on avait fait appel à la VAR. C'est assez surprenant.
Ah non, c'est vrai qu'il n'a pas sorti de carton du tout.
Il n'y a même pas eu de faute de signaler. Il n'y a pas eu de faute de signaler. Hein, donc,
mais enfin, comment ils peuvent.
Là, il n'y a pas faute.
Il ne peut même pas.
Alors attendons,
tenir
parce
debout,
que Rudy Buquet est aussi le spécialiste des décisions tardives.
Non, il a des touches à venir pour les Stéphane.
Non, mais c'est quand même hallucinant. Quoi.
Et la vidéo, comment la VAR ne peut pas appeler Rudy Buquet?
Peut-être un problème de communication entre Nicolas Raville et Rudy Buquet.
C'est mais ça hallucinant,
exactement. C'est hallucinant, c'est le mot. Parce que la faute, elle est moche.
Ouais, la faute
n'est
pas signalée.
C'est pas maîtrisé du tout.
Il n'est pas signalé du tout.
Mais il n'y a même pas un jaune, il n'y a rien. Qu'est-ce qui.
Il boite.
Il va reprendre sa place. Alors, il boite pas. Ou il boite barre, comme vous voulez. Mais le jeu reprend et on va en rester là. Dans l'incompréhension la plus totale. Les Niçois qui ont beaucoup râlé cette saison sur l'arbitrage. Claude Puel en tête. Mais Francaise aussi avant lui. En tout cas, 0-0 à la pause et les deux équipes vont rester à 11 contre 11, même si Denis Sapia a eu très très chaud sur ce coup.
Mais plus de rythme que mardi, on le souligne quand même. 0-0, mais il y a plus de rythme.
Oui, bien sûr, mais en tout cas, décision arbitrale complètement lunaire. Il y a un joueur qui a été amoché par un tacle non maîtrisé sur la cheville, c'est Barr, et l'arbitre et le corps arbitral n'a absolument rien vu, Lionel. C'est quand même dingue.
Ah oui, c'est.
Mais Chaud aussi quitte difficilement le terrain. Il est porté par les deux soigneurs, là. Donc,
mais donc pour eux, c'est quoi? Je comprends pas, c'est un tacle maîtrisé, c'est quoi?
Je sais pas.
Mais il n'y a pas de faute. Il n'a pas sifflé faute.
Non, il n'y a pas de faute.
Donc c'est quoi? C'est un tacle maîtrisé? Une intervention maîtrisée de la part.
C'est deux joueurs qui interviennent sur le ballon au même moment et avec un joueur qui arrive un tout petit peu en retard et met le pied sur la cheville, enfin la semelle carrément.
Au-dessus de la cheville, ouais.
Ah oui.
C'est une erreur d'arbitrage.
Non, mais c'est une erreur qui. Enfin, c'est pas une seule erreur, c'est aussi la VAR qui fait l'erreur. Oui. Parce que là, c'est quand même un potentiel carton rouge. Il n'y en a même pas vu au niveau de l'oreillette qu'ils en discutaient, quoi.
Oui, nous on n'a jamais vu VAR en cours ou quoi que ce soit sur l'écran, rien. Enfin bon.
Non, pas de signal.
Bah, 0-0 messieurs, à la pause. On vous laisse tranquille, effectivement. Bravo. 0-0 à la pause entre Nice et Saint-Etienne. On va aller faire un petit tour du côté de Lyon, c'est la finale de la D1 Arkema. 3-0, tout va bien pour les Parisiennes, pour les Lyonnaises face aux Parisiennes.
Exactement, avec des beaux buts en plus, le doublé de Tabi. À Shawinga, 11e et 16e minute, avec dans le premier un geste superbe. Elle contrôle le ballon de Lily Johannes à l'entrée de la surface de réparation. Elle se retourne, elle ajuste la gardienne parisienne et derrière elle coupe un centre de Lindsay Hips. Et ensuite, que dire du bijou de la haïtienne Melchie Dumornay en pleine lucarne des 18 mètres. Un missile joli. Ça fait 3-0 juste avant la pause fraîcheur. Et depuis cette pause fraîcheur, c'est-à-dire depuis 10 minutes, eh bien, les joueuses de part et d'autre cherchent leur deuxième souffle, un petit peu comme si dans la chaleur de Décines, eh bien, cette pause les avait un petit peu coupé les jambes. Mais on peut imaginer qu'il y a autre chose qui a coupé les jambes des Parisiennes. Ce sont les trois buts des Lyonnaises qui pour l'instant s'acheminent tranquillement vers un 19e titre de championne de France. 3-0 à la 35e.
Merci beaucoup Edouard. On vous rappelle également la sensation sur la terre battue parisienne. C'est Novak Djokovic qui a été sorti en 5-7 par le jeune Fonseca. Le Brésilien est parvenu à éliminer Novak Djokovic qui a peut-être joué son dernier Roland Garros. 21h36, on est ensemble sur RMC jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karine Galli. 21h38, vous êtes sur RMC, soirée de live, on vous le rappelle, c'est le match pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine entre Saint-Etienne et Nice. On est aux côtés de Lionel Charbonnier, il y a également le foot féminin avec la finale de la D1 Arkema. Tout va bien pour les Lyonnaises qui déroulent 3-0 face aux Parisiennes. Pour l'instant, entre Nice et Saint-Etienne, eh bien, l'incertitude est totale. 0-0, on va parier sur cette seconde période.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Yoann Guillet, t'es dans les clous au niveau de ton pari.
Je suis dans les clous, manque plus qu'un but. Et on est parfait pour ce pari d'avant-match. En attendant, les cotes sont belles là. Nice est à 2,40, Saint-Té est à 3,60. Le nul est à 2,20. Et bien, je vais me montrer optimiste pour cette seconde période et je vous proposer les deux équipes qui marquent. C'est coté à 3,30.
Tu vois du spectacle et tu vois enfin
je
des
vois
buts.
Du pestacle, je te le dis.
Eh bien, dis donc. Lionel.
Eh ben moi j'ai pas eu de chance parce que normalement Wahi devait marquer en première mi-temps, il l'a pas fait, il a touché le poteau. Donc vu la conjoncture actuelle, je vais aller sur le 0-0.
Ah, complètement l'inverse du coup. Et là, le 0-0 est coté exactement à 3-0-5.
Ok. Et ouais, bah ouais.
T'as pas l'air convaincu.
Si.
0-0 les deux équipes.
Non, mais après, tu peux pas cumuler, je crois, avec qui va gagner au péno ou.
Je ne pense pas. Attends, je vais te regarder ça. Si non, je te mets un 0-0 pas. Dans un my match et qu'après je te fais résultat.
Non, tu peux.
Non, malheureusement, tu ne peux pas.
Voilà. Bon.
Donc tu restes sur quoi ?
Bah, le 0-0.
Et donc ça va se faire quoi ? Au tir au but ?
Ouais, ça va se terminer au tir au but. Et tir au but, je mettrai Nice au tir au but.
Ce n'est pas proposé là, actuellement.
Tu vois ?
Bon, je crois que c'est proposé avant le match, ça.
On rappelle que si, à l'issue des 90 minutes, il y aura d'abord une prolongation et ensuite une séance de tir au but, si c'est le scénario du match. Merci beaucoup, Johan.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addictions. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Nice-Saint-Etienne, pour l'instant, l'indécision est toujours au rendez-vous. Personne n'a marqué de but. On rappelle que déjà, mardi soir, c'était un triste 0-0. Là, c'était un petit peu mieux, mais ça s'est
20 minutes.
Un petit peu enlisé en fin de première mi-temps. On voit bien que les deux équipes sont tétanisées par l'enjeu. On accueille Frédéric, supporter des Verts, au 32-16 sur RMC. Bonsoir Frédéric.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir Frédéric.
Ravi d'être avec vous. Alors d'abord, je voudrais commencer ce débat pour rendre hommage à Brian Bergogneau, qui est décédé aujourd'hui. C'est triste parce que c'était un père de famille et tout. Donc même en tant que spectateur, c'était un Lyonnais. Je voulais juste avoir une pensée pour lui parce qu'il y a le football, mais il n'y a pas que le football dans la vie. Donc je voulais lui rendre un hommage à ses enfants et à tous ses proches. Parce que voilà, c'est pas facile. Et voilà. Et pour en venir au match, je pense que Saint-Etienne va gagner 2-0.
Alors, tu as aimé ce que tu as vu en première mi-temps ? Tu trouves que ton équipe fait ce qu'il faut pour aller retrouver cette Ligue 1 ? Qu'est-ce que tu as pensé de la première période ? Parce que nous, on trouvait que Saint-Etienne avait plutôt bien démarré et puis après, les Niçois se sont rebiffés.
Bah après, il faut rappeler une chose, c'est que Nice a joué les barrages de Ligue des Champions en début de saison, donc ils ont un effectif quand même qui est plus technique que le nôtre. Il n'y a pas de mal, vous allez me dire. Mais
ça se voit pas trop, hein.
Ouais, mais après, il y a l'enjeu aussi, tu sais, quand tu joues la descente, même si les droits télé sont plus les mêmes en Ligue 1 par rapport à avant, t'as quand même la descente, tu perds des moyens, tu joues avec la peur au ventre, mais puis il y a des joueurs qui sont concernés par la Coupe du Monde aussi, hein, ils veulent pas se blesser.
Mais après. Mais c'est valable pour les deux équipes, ça?
Bah, nous, on en a que deux, hein, et il y en a un qui joue pas, et l'autre non plus, donc nous, on n'est pas trop concernés. Mais le problème qui se pose, c'est que nous, on a toute la saison, on a eu tellement de blessés, alors qu'on joue un match par semaine. Il faudra m'expliquer pourquoi on a autant de blessés. Donc, tu t'en payes les conséquences parce que t'as pas le rythme, t'arrives pas. Tu vois, quand on arrive, t'arrives dans les 30 derniers mètres, t'es pas capable d'accélérer. C'est pas normal parce que tu fais un match par semaine. Donc, je pense qu'il y a un gros problème sur l'aspect physique. Après, ça fait des années que ça dure chez nous. On sait pas faire un centre, on sait pas faire un corner. Par contre, je reste convaincu que le hors-jeu, il est limite, quoi.
Il y a hors-jeu.
Il y a hors-jeu. Je suis un peu chauvin aussi, mais.
Oui, non, il y a vraiment hors-jeu. Parce qu'en plus, il fait action de jeu,
Stassin. Stassin, il n'y a aucun problème. Mais moi, je pensais que le défenseur qui était donc à gauche, je pensais que son team était un peu plus loin que Stassin. Mais bon, après, j'ai pas trop regardé. Parce
non, apparemment, sur le.
On a vu le révélateur.
Ouais, sur le révélateur, il y a vraiment hors-jeu.
Après, il y a carton rouge pour nous. La faute sur le joueur.
Alors, as-tu objectif ?
Mais ouais, tu sais qu'on vient d'en discuter en off là, avec un supporter des Verts aussi qui me disait, alors j'ai peut-être mal vu, qui me disait oui, mais bon, le défenseur touche déjà la balle dans un premier temps et ensuite touche la cheville de Barre et c'est dans son élan.
Ouais,
ça
sort la perpendiculaire, hein, donc il peut lui péter la cheville. Hein,
sur le coup, j'ai mis ça, mais je voudrais le revoir parce que j'ai pas la science infuse non plus.
Pour moi, il y a carton rouge après, bon, voilà. Mais après, c'est un match avancé, hein, c'est un match, ça joue à 4 heures au ventre, et puis nous, on est incapable d'accélérer dans les 30 derniers mètres.
Alors, non, mais ça, c'est
rien, je suis pas entraîneur, mais on n'arrive pas à accélérer, c'est un truc de fou. Alors, paradoxalement, on était super bon offensivement avec le Norvégien, là, Hordaland. Et défensivement, on prenait but sur but. Et puis là, on prend pas de but. Mais par contre, on a pas cet équilibre pour aller faire la différence. Je n'arrive pas à l'expliquer. Et ça fait des années que ça dure. Je l'explique pas.
Alors, ce que j'ai pas compris, moi, par rapport au début de match, parce que justement, vous aviez très bien commencé ce début de match, et notamment en utilisant les ailes, les côtés, et vous aviez une supériorité numérique à chaque fois sur les côtés. Nice n'a rien changé. Par contre, les Verts se sont mis à attaquer plein axe. Ça ne passait plus. Donc, tu te demandes pourquoi. Et puis, il y a eu deux ou trois actions ensuite dans les 20 dernières minutes qui sont venues comme ça, mais pas à force de rechercher le côté. C'est venu comme ça dans l'action. Et on a vu encore que, notamment, Melvin Barre était très, très à la peine. Donc, j'espère que Montagné va quand même accentuer ses offensives sur les côtés parce que vous êtes nettement meilleur.
Ouais, j'espère. Après, toi, Lionel, qui a connu le haut niveau, tu expliques comment que on est autant de blessés. Enfin, à un moment donné, tu fais un match par semaine et tu dois. Enfin, toi, t'as joué le haut niveau, t'as joué avec des champions, tu jouais en même temps en championnat avec Auxerre et tout.
Ça, j'entends beaucoup de personnes qui disent oui, mais on joue un seul match par semaine, mais il y a des blessés, il y a tout ça. Oui, ok. Alors, il y a peut-être un problème à l'entraînement, c'est la première chose. Mais la plus grosse fatigue et celle qui amène les plus grosses blessures et les plus longues et tout ça, ça reste la fatigue nerveuse. Et jouer à Geoffroy Guichard, porter ce maillot et être dans la mauvaise dynamique actuelle, ça contrarie beaucoup aussi les têtes et ça t'amène aussi pas mal de blessures, tu récupères pas comme il faut et tout ça. Il y a aussi la fatigue mentale qui vaut beaucoup sur la fatigue physique.
Oui, mais il a porté cette niaque au milieu de terrain et qu'on n'a pas. On n'a pas de révolte. Dès qu'on prend un but, de toute façon, c'est fini.
Merci beaucoup Frédéric d'avoir été avec nous et on te souhaite une bonne seconde période.
Merci,
on espère
Frédéric.
Effectivement que ça va se décompter d'un côté ou de l'autre. Dans quelques instants évidemment, la suite de cette finale pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine entre Nice et Saint-Etienne. Petit tour à Lyon, on rappelle Edouard que tout va bien pour les Lyonnais, c'est la finale de la D1 Arkema.
Oui, petit tour, petit suspense, hein. 3-0 à la 44e, il y aura un petit peu de temps additionnel avant la fin de ce premier acte. Mais pour l'instant, le doublé de Tabitha Shawinga, 11e et 16e minutes, et les magnifiques buts de la haïtienne Melchi Dumornay permettent aux Lyonnaises d'avoir une vue presque imprenable sur leur 19e titre de championne de France. Nous rentrons dans le temps additionnel de la première période.
Et la night session entre Zverev et Alice, c'est parti, mon cher Eric Salio, l'Allemand face aux Français, il va y avoir match ou pas ?
Non.
On l'espère. On l'espère, mais qu'en tout cas, quand Alice a cédé d'entrée sa mise en jeu, il faut dire que il y a un peu de.
Il y a une petite différence, quoi.
L'an passé, mais c'est vrai que l'adversaire en face est redoutable et ça devient également le favori du tournoi désormais. Après l'élimination hier de Yannick Sinner et surtout la sortie de route tout à l'heure de Novak Djokovic qui en conférence de presse a déclaré qu'il ne savait pas s'il reviendrait l'an prochain à Roland-Garros. Donc bon, c'était un peu le même discours que l'an passé, mais bon, c'est vrai qu'il prend un an de plus. C'est vrai qu'on reste un peu sous le choc de ce match extraordinaire remporté donc en 5 manches par João Fonseca. Je rappelle le score, hein, 4-6, 4-6, 6-3, 7-5. 7-5, c'est seulement la deuxième fois dans sa carrière que Novak Djokovic perd un match en ayant mené 2-0. Et c'est à chaque fois à Paris que ça s'est déroulé. Voilà, c'est sûrement un hasard.
Ce match était absolument exceptionnel. Dans quelques instants, la suite du match entre Nice et Saint-Etienne. On vous rappelle qu'à la pause, il y a 0-0. Vous êtes sur RMC, on est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'After Live.
Karim Gueye. 21h51, vous êtes sur RMC, on est ensemble pour savoir qui jouera en Ligue 1 la saison prochaine. C'est soit Nice, soit Saint-Etienne. À mes côtés, Lionel Charbonnier. On va retourner à l'Allianz Riviera. Maxime Tilliat et Clément Brossard. Pas de but à l'issue des 45 premières minutes. Mais par contre, il y a eu des changements. Et notamment Barre qui a été blessé juste avant le coup de sifflet qui ramenait les deux équipes au vestiaire.
Oui, Denis Sapia qui s'en est bien sorti parce qu'il aurait pu prendre rouge. Seul à l'Allianz Riviera, Rudy Buquet n'était pas d'accord. Donc Melvin Barre a cédé sa place sur blessure. C'est Tom Louchet qui était déjà sur la pelouse mais qui descend d'un cran pour le suppléer. On a fait rentrer Kyle Boudache et Sofiane Diop également puisque Mohamed Alichaud est sorti aussi en boitant.
Il a raison.
Et puis changement également côté stéphanois, sorti de Le Cardinal, remplacé par Mickaël Nadé poste pour poste. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Là, il y a Dante qui vient de prendre un jaune pour sur un duel aérien avec Boaké. Il avait le coude un peu trop sorti. C'était un peu sévère. Mais c'est vrai que cette action, et on l'a revue pendant la mi-temps, on en a évidemment beaucoup parlé ici en tribune de presse.
Pas vraiment qui comprend.
Ouais, on comprend pas vraiment comment Denis Sapia s'en sort indemne, enfin s'en sort sans carton, et Melvin Barre est obligé de céder sa place malgré cette énorme semelle au-dessus de la cheville.
Deux minutes dans cette seconde période de jouer, 0-0 toujours entre l'OGC Nice et l'AS Saint-Etienne. Yvan Diouf qui récupère ce ballon, qui va rejouer avec son capitaine Dante. C'est triste hein, de voir la fin d'une carrière, d'un monument comme Dante se jouer ce soir dans un stade à huis clos. C'est son 754e match en carrière au défenseur de 42 ans, le 324e avec Nice. Il aurait à coup sûr préféré le vivre dans une autre ambiance et dans un autre contexte aussi que celui qui est aujourd'hui présent à Nice pour éviter une relégation.
Il a eu le droit à une petite faveur malgré tout, c'est que son fils, le plus grand fils, est présent et fait partie des ramasseurs de balles sur ce match. Donc voilà, ce qui lui permet malgré tout d'avoir la famille présente un petit peu d'une manière ou d'une autre à ses côtés pour ce dernier rendez-vous. Son fils qui est supporter de l'OGC Nice, hein, il a une douzaine d'années, il est là depuis 2016, donc forcément voilà, son rêve c'est d'aller vivre des matchs avec la populaire sud, comme Dante d'ailleurs, hein, il a dit il n'y aura pas d'adieu forcément ce soir, mais il aura l'occasion de revenir et pourquoi pas aller vivre un match en tribune avec les supporters.
Pourquoi pas être sur le banc de l'OGC Nice prochainement.
C'est ce que beaucoup de Niçois et niçoises espèrent évidemment. En tout cas, la tendance c'est plutôt, et c'est même quasiment
c'est
sûr.
C'est le Bayern.
Oui, c'est l'équipe réserve du Bayern.
Oui, mais pour un peu plus tard.
Parce que Nice a essayé de le retenir évidemment en lui proposant aussi une équipe de jeunes, mais le projet n'était pas aussi emballant que ce qui était proposé du côté du Bayern Munich. Un corner à venir, là, suite à l'intervention de Kevin Pedro, corner à venir pour les Niçois, pour pourquoi pas se créer la première occasion dans cette seconde période. Toujours 0-0 sur l'ensemble des deux matchs.
Jonathan Klaus pour le frappé de la gauche vers la droite en regardant la cage de Gauthier Larsonneur. Bras à gauche levé une nouvelle fois pour Jonathan Klaus. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Morgan Sanson espère le ballon au niveau de la demi-lune. Si jamais ça revient, ce sera au second poteau vers Dante et finalement repoussé par la défense stéphanoise en deux temps avec une chandelle de Zorico Davitashvili et derrière Tom Louchet qui en première intention a essayé de jouer vers Sofiane Diop. Ça partira directement en 6 mètres.
Effectivement, c'est raté.
Bah comme le match de Tom Boucher pour l'instant.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on se disait avec Lionel que le début de match, bon, était
stéphanois.
Oui, stéphanois, non, mais il y avait quelques
plus
promesses.
En ballon. Bon, plus en ballon.
Quelques promesses. Et c'est vrai que là, on a l'impression que c'est en train de baisser minute après minute, parce que la peur est vraiment en train de s'installer. Donc, on tend vers ce qu'on a vu mardi soir là depuis quelques minutes quand même. Hein.
Bon, quand même pas. Non, franchement, mardi soir, c'était quand même un sommet de nullité. Attention, le centre, il est trop court. Le ballon qui traîne, la reprise. C'était évidemment Eli Wahi qui était sur ce second ballon. C'est capté par Gauthier Larsonneur. Alors que sur le centre, au départ, Sofiane Diop était un peu juste pour dévier ce ballon de la tête. La bonne sortie, la bonne couverture derrière de Yvan Diouf, sortie de sa surface de réparation.
On le voyait pas mardi soir. Des frappes cadrées.
Voilà, par exemple. Mais c'est vrai qu'au niveau des expected goals, là où ça a été un record. franchement, vous êtes sévère. Il y a eu le but refusé pour les Stéphanois, il y a eu les tentatives de Klaus, de Wahi, le poteau en
première. Quatrième frappe cadrée, Lionel.
C'est une orgie de football.
Franchement, je me trouve sévère pour le match. Alors certes, c'est deux équipes qui sont un petit peu malades, donc on n'assiste pas à un niveau final de Ligue des Champions. On espère que demain, ce sera un peu mieux que ça, c'est sûr.
Oui, ça,
mais pour le moment, je vous avoue.
Après, un but peut vraiment tout changer.
Oui,
là, on va avoir une équipe qui derrière n'a plus choix, va se découvrir, etc. Donc voilà, on peut aussi tomber dans l'euphorie d'une rencontre. Et pour l'instant, c'est vrai qu'on a peu vu de grosses opportunités. Morgan Sanson peut-être avec ce ballon dans la profondeur pour essayer de chercher Jonathan Clauss. Ce sera repoussé par la tête de Zurico Davitashvili et revenir vers l'ex-Lensois avec cette frappe longue distance tentée par Mendy et qui finalement c'était Koulibaly plutôt et qui a été repoussé à nouveau par la défense stéphanoise. On est revenu au niveau de la ligne médiane avec le capitaine Dante.
Ouais, grosse activité encore une fois hein, de Gadek Bekou au milieu de terrain, 19 ans le milieu stéphanois, c'est seulement son 12e match en professionnel et il y a un match dans le match avec Djibril Koulibaly de l'autre côté, 17 ans, 4e titularisation chez les pros et les deux jeunes au milieu de terrain eh bien, se montrent bien présents malgré tout l'enjeu de cette rencontre. Ce sont peut-être eux les moins timorés et les plus frais mentalement pour aborder ce match. La passe ratée là de Antoine Mendy, ballon récupéré et rendu plutôt aux Stéphanois qui peuvent aller essayer de se créer une situation sur l'aile droite.
Ouais, c'est Gadek Bekou qui a immédiatement alerté là-bas à Pia pour jouer avec Maxime Bernauer et on fait tourner dans la défense stéphanoise avec Nadé désormais sur le côté gauche pour la prise d'intervalle de Kevin Pedro qui va pouvoir rejouer avec son milieu de terrain et écarter à nouveau sur la droite avec Appia. On va essayer de chercher un petit peu de profondeur peut-être pour les Stéphanois, mais ça va revenir encore vers la ligne médiane parce que les Niçois défensivement sont plutôt bien placé, essaye de quadriller au maximum leur moitié de terrain et Davitashvili est peut-être l'homme qui va faire la différence dans ses petits crochets. Il met ce ballon un petit peu dans les talons de Kevin Pedro qui va le récupérer pour rejouer une nouvelle fois en retrait avec Nadé et Davitashvili.
Ouais, mais elle va faire du bien cette phase de possession aux Stéphanois qui était plutôt en train de défendre depuis quelques minutes et qui là sont à l'attaque, font patiemment bouger le bloc niçois. Ils essayent de trouver la faille, mais pour le moment ça coulisse bien du côté de Dante et ses hommes. Là, c'est bien fermé côté gauche le long de la ligne de touche par Tom Louchet qui va concéder la touche. Est-ce que Cardona va la... Non, il va patienter, il va rendre le ballon à Denis Sapia qui va effectuer cette remise en jeu pour les Stéphanois.
Sur le côté droit de l'attaque stéphanoise avec l'appel d'Yavin Cardona, la petite feinte, appel contre appel pour resservir Appia et la défense de Tom Louchet repositionnée donc en arrière-gauche. Nouvelle touche à venir pour l'AS Saint-Etienne après 53 minutes de jeu dans ce match de la peur, dans ce barrage pour savoir qui de Nice est ou de Saint-Etienne accédera ou restera en Ligue 1 la saison prochaine. 0-0 pour le moment. Appia pour jouer cette touche vers Irvine Cardona qui va rejouer vers son latéral. Le double 1-2 pour Appia. Le centre en retrait, c'est bien fait. Avec la tentative de frappe peut-être pour Gadek Bekou. Aura très bonne inspiration. Le centre contre les Niçois. C'est pour la Saint-Etienne avec Stassin qui, du bout du pied, a réussi à trouver la faille et le poteau. Il y avait une position de hors-jeu. Les Niçois qui partent en contre-attaque.
Ouais. Le drapeau s'était levé et Wai derrière sur la contre-attaque. Le jeu c'était, l'arbitre avait laissé l'avantage et Wai qui loupe sa conduite de balle derrière la frappe de loin captée facilement par Gauthier Larsonneur. Il y avait des solutions pourtant autour de lui. Eli Wai a voulu tenter sa chance sur ce coup, mais encore une fois belle occasion pour les Stéphanois avec Stassin qui a jailli, qui a dévié ce ballon et qui a vu cette frappe heurter le poteau. On va enfin avoir droit au ralenti, le jeu étant arrêté. Je suis pas certain qu'il y avait une position de hors-jeu. En tout cas, Yevan Jouf bien content de voir le poteau le sauver sur ce coup.
Avec la défense stéphanoise qui repart de derrière donc avec désormais Kevin Pedro formé au club 20 ans qui à l'image de la défense stéphanoise ne se jette pas, ça aussi c'est un des enseignements de cette partie, ils défendent debout et c'est arrivé à deux reprises déjà, prise de risque de Louchet dans la transmission à l'instant, que les Niçois frappent et se voient contrés au dernier moment par des Stéphanois. Sofiane Diop pour un peu emballer cette offensive niçoise, il va finalement jouer en retrait avec Koulibaly et on va repasser par derrière avec Dante.
Ouais, ils étaient pourtant avec le dédoublement de Tom Louchet le long du couloir gauche, mais finalement il est reparti vers l'arrière, on fait circuler, on est côté droit désormais avec Clauss, avec Sanson et on va repartir vers la gauche. Ouais, mais là cette transversale est téléphonée et c'est bien vu et bien lu par Irvine Cardona qui permet au vert de remettre le pied sur le ballon et en l'occurrence Denis Sapia, il a des appels devant lui, la déviation de Boisquier pour retrouver Cardona, c'est bien fait même si derrière la transmission est interceptée par Morgan Sanson et Djibril Koulibaly qui va faire la loi encore une fois au milieu de terrain. 0-0 la 55e entre Nice et Saint-Etienne.
Il n'est pas très grand Djibril Koulibaly, il fait 1m78 mais j'ai l'impression qu'il fait 2 mètres au milieu de terrain, on ne voit que lui.
Ils n'ont peut-être pas mis à jour le fichier parce que c'est vrai qu'1m78
ça me paraît bizarre.
Ouais. Il est aussi grand que Stassin
de plus que que tout le monde. Le bon ballon de Sofiane Diop là pour allonger une belle transversale vers Jonathan Clauss avec Mendy désormais pour retrouver le jeune Boudache qui vient d'entrer en jeu à la pause. Sofiane Diop, il a essayé de trouver l'intervalle, ça s'est vite bouché devant lui avec Opong désormais. La balle en profondeur pour Tom Louchet sur le côté gauche de la surface de réparation et le tacle derrière Stéphanois pour mettre ce ballon en corner. On avait enfin trouvé, Maxime, l'espace dans le dos de la défense stéphanoise.
Ouais, c'était bien fait hein, là, la fixation d'Opong, la passe dans le dos pour Tom Louchet, la prise de balle peut-être un peu ratée hein, il perd son léger temps d'avance. Tom Louchet sur ce coup et derrière son centre est contré, mais les Niçois encore une fois avaient réussi à s'insérer dans la surface de réparation des Stéphanois. Corner à venir, les deux derniers avaient été tirés en direction de Dante avec à chaque fois Jonathan Clauss à la baguette et c'est évidemment encore une fois l'international français pour s'en charger. C'est parti au second poteau, toujours vers Dante, la remise du capitaine Yawahi, le ballon qui traîne, les Stéphanois qui n'arrivent pas à se dégager. Si c'est chose faite, et peut-être un contre à venir pour les Verts.
Ouais, ça va être compliqué, il y a peut-être une faute de David Ashvili au départ. Ouais. Il a fait cran, comme on le dit au basket, devant Sofiane Diop et il partait à 2 contre 5. C'était compliqué. David Ashvili et Estassin, la petite faute du géorgien sur Sofiane Diop et donc un coup franc à venir, alors que après les blessures de Melvin Barr et de Mohamed Ali Chaud, c'est un autre Niçois qui se retrouve au sol, notamment Kocho Opong, qui fêtera jeudi prochain ses 22 ans et qui se plaint dans la surface de réparation des Verts.
On va revoir sur le corner. Est-ce qu'il réclame quelque chose? Il est au duel avec Lucas Stassin. Ouais, non, ça semble trop léger. Loin du ballon. Et on voit, allez, un petit geste, peut-être la main de Stassin, pas loin du visage, ou du moins la glotte. Mais bon, quand on a vu l'action de Denis Sapia sur Melvin Barr, on voit pas comment, là, on pourrait siffler quelque chose. Ouais, non, elle a retombé non plus. Donc, on fait appel au soigneur. Le rythme va redescendre un petit peu, la 58e. Toujours 0-0. Le suspense est total hein, dans ce barrage retour.
Ah, ben, les garçons, ils trouvent que c'est pas capables. Mal comme match, alors bon, on dit rien, nous on n'ose plus dire quelque chose.
Ah, franchement, non mais Karine, pour un barrage retour avec deux équipes qui jouent la peur au ventre depuis des semaines dans un stade à huis clos, honnêtement,
on s'attendait à pire.
Ah, franchement, depuis ce matin, je m'attendais à pire.
Ah ouais.
Allez, sur coup de pied arrêté, peut-être Lionel, là, on va emballer tout ça avec Boudache et Klaus autour de ce ballon. On est loin de la cage de Gauthier Larsonneur et pourquoi pas mettre un ballon dans la boîte, pourquoi pas trouver un joueur de tête, notamment Dante qui est là. Opong est toujours sur le côté, ça part au niveau du point de pénalty repoussé par la tête de Maxime Bernauer, ça va revenir sur Dante sur le côté gauche qui laisse filer en touche.
Touche à venir pour les Niçois, quasiment au niveau de la surface de réparation. Tom Louchet, le piston gauche, donc depuis la sortie de Melvin Barr, va s'en charger, mais non, il va pas mettre le ballon vers la surface. On repart vers l'arrière et on approche l'heure de jeu. Toujours pas de but entre Nice et Saint-Etienne dans ce barrage retour d'accession promotion en Ligue.
On vit Roland Garros avec Eric Salieux. On rappelle que Zverev est opposé à notre Français Alice. Comment ça va pour l'Allemand?
L'Allemand est en tête, il mène 3 jeux à 2, il a fait le break. Alors c'est pas aussi simple que ça puisqu'il avait fait break d'entrée, mais Quentin Lys avait réussi à prendre la mise en jeu de l'Allemand, mais il y a quelques secondes l'Allemand en a remis une couche, donc il s'est détaché 3 jeux à 2, il est au service. Belle atmosphère hein, le stade est plein à craquer, même si le match a démarré avec combien, 1h30 de retard hein, j'imagine, parce que à cause de la longueur du match précédent. Mais voilà, Quentin Lys, il a absolument rien à perdre hein. Ils se sont joués à Miami et ça avait fait 7-6 hein, Karine, donc tu vois, ouais, c'était accroché. Il faut pas qu'il ait de complexe face à l'Allemand. Puis il faut espérer que l'Allemand pétoche un peu, puisqu'il devient le favori numéro 1. Hein, on va lui mettre une petite pression.
Ah, bah là, de toute façon, ce statut de favori, on va voir s'il l'assume ou pas.
Exactement. 3-2 pour Zverev, il est au service.
Magnifique. Juste avant de partir en pause, un petit mot à Nice, parce qu'il y a eu une énorme occasion, messieurs.
Encore une. Oh. L'heure de jeu. Il se passe des choses dans ce barrage.
À côté.
Et ouais, malheureusement, manque de justesse encore une fois dans la finition, mais c'était pas mal fait ce jeu à trois côté niçois avec Klaus, avec Boudache et Wai à la finition qui
Cardona, le centre retrait, Cardona, ça va revenir sur Boakye, la bonne défense niçoise, mais les Verts qui sont vite partis en contre-attaque. L'heure de jeu, Maxime, 0-0.
Mais des occasions bien sûr commentées par Maxime Tillet et Clément Brossard. On se retrouve dans quelques instants, le sport, ça se vit sur RMC, à tout de suite.
RMC, l'Afterlife.